pour que vous puissiez regarder de vos yeux, que la parole puisse vous parler personnellement. Si vous désirez avoir une Bible pour pouvoir suivre et que vous n'en avez pas, soyez pas gênés, juste levez la main, puis quelqu'un à l'arrière va vous apporter une Bible, tournée dans le livre des Actes au chapitre 20. Et on va se courber tout de suite dans un mot de prière ensemble avant de lire la parole de Dieu. Père éternel, nous sommes assemblés pour t'adorer, Seigneur. On a déjà chanté la louange, Seigneur, les louanges de ta gloire, de ta grandeur. Tu es un Dieu glorieux, Seigneur. Ton amour et ta grâce surpassent tout ce qu'on pourrait concevoir, Seigneur. Tant et si bien que lorsqu'on raconte ton histoire, lorsque nous racontons la bonne nouvelle de ce que Jésus est venu accomplir, tout ceci semble bien souvent invraisemblable. Seigneur, tu es glorieux dans ta sainteté, dans ta perfection, dans ta puissance, dans ta majesté, mais aussi, Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde. Seigneur Jésus, tu es venu donner ta vie. Tu es venu donner ta vie afin que ceux qui placent leur foi en toi, ceux qui décident de te suivre, aient la vie et qu'ils aient une vie en abondance. Je te prie, Seigneur, de nous conduire dans ce passage ce matin. Père, nous avons besoin que ces pages qui ont été écrites il y a si longtemps, Seigneur, deviennent vie pour nous personnellement. Je te demande, Seigneur, de me remplir de ton esprit. C'est en Jésus que je te le demande. Amen. Amen. Acte 20. Verset 1, je vais vous lire une bonne section, je vais aller jusqu'au chapitre 21, verset 14. Je vais lire un peu plus rapidement qu'à l'habitude, d'accord? Alors, on est dans le livre des Actes, c'est dans cette portion-là, c'est l'histoire de Paul, un des apôtres qui est dans des voyages missionnaires. Et donc, on l'assiste, on l'accompagne dans ses voyages missionnaires, d'accord? Lorsque le tumulte eut cessé, alors qu'il est à Éphèse, vous avez vu ça la semaine dernière avec Samuel, qui a porté le message de la parole, lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et après les avoir exhortés, prit congé d'eux, et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Il allait de lieu en lieu, partout où il y avait des disciples, il les enseignait, il les encourageait. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. De grâce, ne vous endormez pas. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. J'ai ressuscité personne encore, d'accord? Fait qu'essayez-le pas ce matin, s'il vous plaît. Soyez gracieux avec moi. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut un sujet de grande consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré que de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient affligé. Surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et il l'accompagna jusqu'au navire. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, là on fait référence au début du livre des Actes, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, et ceux de l'endroit, nous et ceux de l'endroit. Nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Je ne sais pas si vous connaissez une expression qui est à la mode, particulièrement chez les jeunes, ça fait quelques années, l'expression « YOLO ». Qui connaît ça, « YOLO », vous avez déjà entendu ça? Bon, ça a l'air qu'on va faire votre éducation ce matin. Ça fait juste quelques semaines que je connais ça. D'ailleurs, vous connaissez ça en arrière, hein? Texter, tout ça, constamment. YOLO, c'est un acronyme qui veut simplement dire « You only live once ». Cet acronyme-là a été popularisé par un rappeur canadien, Drake. Et c'était probablement que ça n'origine pas de lui, mais c'est lui qui l'a popularisé dans un de ses CD de moto. Et simplement pour vous donner un petit peu l'explication de ce que ça représente, quel est l'esprit qu'il y a derrière ça, c'est une espèce de philosophie de vie, d'accord? Certains d'entre vous avez déjà entendu l'expression « carpe diem » qui veut simplement dire « saisir le moment, saisir l'instant ». D'accord? Carpe diem, c'est vivre le moment présent pour apprécier ce qu'il y a là et pas m'empêcher de vivre maintenant à cause d'un paquet d'inquiétudes, d'accord? YOLO, c'est un peu ça, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Il y a quelque chose d'un peu désespéré, d'excessif dans cette expression-là qui dit qu'il faut vivre maintenant pleinement, entièrement, mais un peu dans l'incertitude de demain. C'est pas simplement de me concentrer sur maintenant, un peu ce que les frères ont partagé tout à l'heure quand on fait une retraite de prière. J'essaie d'être dans le ici et maintenant avec Dieu, d'accord? YOLO va plus loin que ça. Ça dit, il faut que je vive la vie maintenant à plein, à fond, parce que demain, je ne sais pas s'il y en aura un, puis je ne sais pas qu'est-ce que demain me réserve. Drake, dans une entrevue où il expliquait un peu c'est quoi que ça représentait pour lui à tout le moins, chacun peut y donner le sens qu'il veut. Certains d'entre vous, parmi les jeunes, vous allez me dire, c'est pas ça que ça représente pour moi. D'accord? Je vous explique pour lui ce que ça représentait. Et donc, dans une entrevue, dans une période de sa vie, ceux qui connaissaient Rihanna, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a commencé à faire circuler sur Internet des rumeurs comme quoi qu'il y avait une histoire entre Rihanna et Drake, tout ça. Puis ce gars-là est en train de perdre sa vie à travers cette affaire-là parce que, bon, tout le monde ne lui parlait que de ça. Et à un moment donné, il était un peu désespéré de cette situation-là. Ça ne lui était pas profitable. Et puis il dit, à un moment donné, au milieu de tout ça, je me suis dit, c'est pas ça la vie. Et puis, il était dans une discothèque, puis il dit, regarde, si je m'en vais dans une discothèque, je vais être là, je vais clubber jusqu'à 4 heures du matin, je vais vivre ça intensément parce que je ne sais pas si j'ai une vie après ça. Et il dit, pour moi, c'est ça, YOLO. Alors, il y a cette espèce d'idée un peu désespérée de dire, l'avenir est-il bon? Je ne sais pas, l'avenir est incertain. Mais la vie maintenant, je veux la vivre à plein. Dernièrement, j'étais sur le web, puis j'ai lu un truc qui a été écrit par un chrétien, Michael, Olivier Talbot. Et puis, j'ai demandé la permission de citer ça, tout ça. Il écrit ça sur un blog qui tient où il écrit ses réflexions. Si on peut l'afficher, s'il vous plaît. Voici ce qu'il a écrit. J'ai trouvé ça intéressant parce que, plus jeune que moi, donc il est un peu plus branché sur ces questions-là, cette manière-là de voir la vie. Voici ce qu'il écrit. « Une pensée traîne dans ma tête. » Si l'homme trouve que la vie passe vite, c'est qu'il la veut éternelle. Je trouve ça intéressant. C'est qu'il l'a déjà connue, éternelle. Carpe diem n'est plus suffisant. YOLO non plus. On finit tous dans le même ravin et ça nous fait tous autant... Je m'excuse, c'est ma traduction. Bip. On veut plus, je veux plus. Mon âme crie, elle va jamais mourir. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la réflexion d'Olivier, c'est qu'Olivier est en train de dire, voyez-vous, il y a ça, il y a carpe diem, il y a YOLO, il y a l'idée de vouloir vivre une vie entière, une vie riche, mais en même temps avec une perspective qui dit, oui, mais si la vie passe si vite, si je veux vivre le maintenant, c'est qu'il y a un après. C'est que mon âme aspire à quelque chose d'autre, de plus que ici et maintenant. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est qu'on arrive à un moment dans la vie de Paul, on arrive à un moment dans la vie de Paul où Paul ne connaît pas le lendemain. D'accord? On va passer 2 semaines sur ce passage-là et je voulais faire ressortir 2 éléments. Cette semaine, je vais me concentrer sur la philosophie de vie de Paul devant cet avenir-là qui est incertain. La semaine prochaine, on va regarder un petit peu plus ce que Paul dit aux anciens, aux pasteurs de l'Église d'Éphèse, tout ça, et comment il les encourage à prendre soin de l'Église. On va revenir là-dessus la semaine prochaine. Mais c'est tellement fort ce qui se passe ici dans la vie de Paul, je me suis dit, on a des choses à apprendre de ça. Paul arrive à un moment dans sa vie où tout ce qu'il peut savoir, c'est que son avenir est incertain, il est menacé. C'est vraiment spécial ce qui se passe ici. Paul a une vie exceptionnelle. On s'entend, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais ressuscité personne. Une des choses qui ressort à travers le livre des Actes, que Luc veut faire ressortir, c'est que Paul était un homme d'exception. Et donc, on peut voir un peu ici des parallèles avec la vie de Jésus lui-même, où Paul a pu, Dieu a fait par Paul des miracles très comparables à ceux qu'il a fait à travers Jésus. Et là, Paul s'en va à Jérusalem, sachant que sa vie est menacée, un peu comme Christ est monté lui-même à Jérusalem, allant offrir sa vie. Alors voyez-vous, il y a vraiment des parallèles qui sont là, où le Saint-Esprit est en train de dire, je crois, à travers le livre des Actes, que toute la puissance qu'on a vue dans la vie de Jésus, il va le reproduire dans son Église à travers la vie de ses disciples aussi. Et donc, dans une certaine mesure, aussi dans nos vies à nous. Maintenant, Paul se rend à Jérusalem. Il avait gardé l'habitude d'y aller régulièrement. Même s'il s'était converti, s'il était devenu chrétien, il continuait à honorer plusieurs fêtes juives. C'était important pour lui parce qu'il voyait à travers toutes ces fêtes-là l'annonce du Messie. Et donc, il continuait à honorer ces fêtes-là. Alors, il se rendait régulièrement à Jérusalem, même s'il voyageait à travers tout l'Empire. Et Paul est en train de se rendre là. Et au fur et à mesure qu'il est en train de s'approcher de Jérusalem, le Saint-Esprit, à travers les chrétiens, probablement à travers son propre cœur, est en train de l'avertir, tu t'en vas dans le trouble, man. Tu t'en vas vraiment, possiblement vers ta fin. En tout cas, ce ne sera pas beau ce qui t'attend là. Je vais revenir sur le message de l'Esprit qui est comme confus un peu à ce moment-ci dans sa vie, d'accord? Mais ce qui m'intéresse pour commencer, c'est son attitude à lui, sa philosophie de vie. Et cette philosophie de vie-là, il nous la réserve au verset 24. Il nous la résume au verset 24. Acte 20, verset 24, voici ce qu'on lit. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » S'il y a quelqu'un sur la terre qui a vécu une vie énorme, d'accord? Une vie riche, une vie à fond la caisse, c'est l'apôtre Paul. Cet homme-là a tout vécu. D'accord? Il a vécu les plus grandes émotions qu'un être humain peut vivre. Il a vécu les plus grandes aventures qu'un être humain peut vivre. Sa vie a été menacée je ne sais pas combien de fois. Il a vu Dieu manifester sa gloire de manière incroyable. Il a vécu une vie incroyablement riche et dense. Mais il avait une philosophie de vie. Et sa philosophie de vie était de ne pas considérer sa propre vie. Voici comment je résumerais ça. Paul a vécu une vie pleine et riche parce que sa vie ne fut pas précieuse à ses yeux. C'est vraiment important. Ce que je suis en train de dire là va pratiquement à l'opposé complètement de Carpe Diem ou YOLO. D'accord? Je répète ça. Paul a vécu une vie pleine et riche parce que sa vie ne fut pas précieuse à ses yeux. La seule vie qui fut précieuse à ses yeux est la vie que Christ a produite en lui. Il s'est laissé conduire par Jésus-Christ, alors sa vie a pris toute sa valeur. Alors, ce qu'on va voir très brièvement ce matin, premièrement, une vie offerte à Jésus-Christ donne toute sa valeur à cette vie-là. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire une vie qui est guidée par l'Esprit Saint? Parce que si j'offre ma vie à Christ, ça veut dire que c'est lui qui prend la direction de ma vie. Et on va voir ça brièvement ensemble. Une vie offerte à Jésus-Christ lui donne toute sa valeur. Je résumerai ça comme ça, d'accord? Et une bonne partie de la philosophie de vie d'un chrétien se résume à ça aussi. Plus tu retiens ta vie, moins elle prend de la valeur. Il y a une vieille expression, j'ai déjà partagé ça avec l'Assemblée. On pense qu'elle a été comme penned down, qu'elle a été mise sur par écrit par Augustin, incurvatus in se. D'accord? Incurvatus in se, qu'est-ce que ça parle? Ça parle d'un individu, d'un être qui est replié sur lui-même, qui est tourné vers l'intérieur, vers lui-même, et ce repli-là sur lui-même l'empêche de s'ouvrir à la vie, l'empêche de s'ouvrir autour de lui. Dans cette philosophie de vie-là, YOLO, il y a de ça là-dedans, d'accord? Et Paul, lui, a renoncé entièrement à cette posture-là où je suis en train de me dire, je sais pas si j'ai un avenir, mais je vais regarder à moi parce que moi, c'est important ce que je suis en train de vivre ici et maintenant. Et ce que je rencontre dans la vie de Paul, c'est que tout ce que quelqu'un va trouver en étant replié sur lui-même, de vie intense, de bonheur, de joie, d'expériences extraordinaires, Paul les a trouvés en étant sorti de lui-même, détourné de lui-même, en renonçant à sa propre vie. Ce que je vois ici dans la vie de Paul, ce que je vois constamment dans les Écritures, c'est que plus tu retiens ta vie, plus elle est précieuse à tes yeux au point où tu dis, moi, je vais la retenir, c'est moi qui vais avoir le contrôle sur ma vie, moins elle va prendre de la valeur. Parce que tu es le seul qui est au contrôle de cette vie-là, et ça veut dire que c'est limité à tes propres capacités. Et la philosophie de vie de Paul était complètement à l'opposé de cela. Il avait décidé de renoncer à sa propre vie, comme si elle était sans valeur, afin de laisser quelqu'un d'autre vivre sa propre vie en lui. Si ce qui t'empêche de placer ta foi en Jésus-Christ, c'est que tu t'accroches à ta propre vie, tu la tiens, tu la gardes pour toi, et je l'entends régulièrement. Je sais. Personnellement, ma conversion, ça se résume à une chose. Seigneur, c'est plus moi, c'est toi le patron. J'avais tout entendu l'Évangile, j'avais compris l'Évangile, je savais tout ça. Ma conversion se résume à une chose. C'est plus moi le boss, c'est toi le boss, Seigneur. C'est là que je me convertis, c'est là que j'ai donné ma vie à Christ, d'accord? Et je lui ai dit, viens vivre en moi. C'est ce qui t'empêche de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est que tu t'accroches à ta vie et tu dis, c'est la mienne, elle m'est précieuse. Plus tu vas la retenir, plus tu vas la trouver fade. Moins elle va prendre de sens et moins elle va prendre de valeur. Parce que tu es engagé dans un processus d'auto-accomplissement et tu es seul en train de t'accomplir. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es une personne limitée. Tu es un pécheur qui fait plein de gaffes, qui fait plein de niaiseries. Alors que le grand privilège que le Créateur nous offre, c'est de dire, regarde, et si tu me laissais moi conduire ta vie? Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est extrêmement difficile. Je parlais avec un de mes amis qui est pasteur. Un gars qui vit la vie à 200 000 à l'heure, d'accord? Moi, je suis un ermite pépère à côté de ce gars-là. C'est un globetrotter, il veut toujours vivre la vie à 200 000 à l'heure. On est des bons amis, on jase ensemble, on est assez proches. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, parce qu'il arrive un petit peu au bout de lui-même, en train de se brûler dans toute cette folie-là. Puis j'ai dit, écoute, mon impression, là, c'est que tu as peur de ce que Dieu ferait de ta vie. Tu ne crois pas que Dieu veut te donner une vie exaltante. Et c'est drôle, ça fait des mois que j'ai parlé de ça, mais je lui ai donné Paul comme exemple. Je lui ai donné Paul comme exemple parce que j'ai dit, tu sais dans le Nouveau Testament, il y avait des apôtres qui étaient des Yanniques, tu sais, sédentaires à mort. Les gars sont à Jérusalem, puis toute leur vie, ils sont bien. Puis il y en avait d'autres que c'était des globetrotters, comme Paul. Paul, lui, Jérusalem, il aurait comme fait le tour en 2 ans, puis tu sais, regarde, j'ai tout fait ce que je pouvais faire ici. Donnez-moi la terre, s'il vous plaît. Puis Dieu, il a donné l'Empire romain. Et c'était simplement ça, mon encouragement. Je lui disais, est-ce que tu crois que si tu arrêtes de tenir le contrôle sur tous tes rêves, tout ce que tu veux faire, et tu apprends au lieu à confier chacun d'entre eux à Dieu dans la prière, tu dis, Seigneur, est-ce que c'est là que tu veux me conduire ou tu veux me conduire ailleurs? Est-ce que tu crois qu'il peut te conduire dans une vie encore plus puissante, plus riche, plus grande, plus exaltante que tout ce que toi t'aurais rêvé? Et honnêtement, je n'ai pas encore eu sa réponse. Je n'ai pas encore eu sa réponse. Mais je crois que c'est conduit par l'Esprit qu'on avait cette conversation-là. Je crois que c'est en train de cheminer dans son cœur, dans sa pensée. Plus tu retiens ta vie, moins elle prend de la valeur. Pourquoi cela? Parce que Jésus-Christ n'est pas un gourou, n'est pas un prophète, n'est pas un dirigeant spirituel comme les autres. Jésus-Christ se démarque de tous les autres parce qu'il a offert sa propre vie. Voyez-vous la distinction majeure entre Jésus de Nazareth et toutes sortes de chefs religieux qu'on va trouver, c'est qu'il est venu offrir sa propre vie afin que vous ayez la vie, afin que moi j'aie la vie. On lit dans Marc 10, 45, c'est Jésus qui parle, il est à quelques heures d'aller à la croix, donc d'aller offrir sa vie sur cette croix. Dans Marc 10, 45, on lit « Car le Fils de l'homme est venu », il parlait de lui-même à ce moment-là, se désignait régulièrement comme cela, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donc Jésus-Christ est différent de ce que tu vas trouver ailleurs. Il est venu pour offrir sa vie pour toi. Maintenant, pour qu'il puisse t'offrir sa vie, que sa vie puisse venir et être vécue en toi, ça te demande à toi de renoncer à la tienne. Et de dire comme Paul, je considère que ma vie n'est plus précieuse. La seule qui est importante, c'est celle que Christ vit en moi. Je partageais ça avec des gars cette semaine, puis on lisait le verset 24, puis c'est dans un contexte où Paul se prépare peut-être à mourir, d'accord? C'est extrême, puis c'est Paul. Puis avec Paul, tout est toujours extrême. Puis je vous relis juste le verset 24, il nous dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. » Et je viens de vous lire plus loin dans le passage, il va dire, « Écoutez, ça ne me dérange pas d'aller à Jérusalem les mains liées, ça ne me dérange pas de mourir pour le nom de Jésus. » C'est pas important pour moi, ces choses-là. Et la question que je posais aux gars cette semaine lorsqu'on jasait, je leur disais, c'est quoi la différence entre ce qui nous est présenté ici comme style de vie et ce que Jésus demande lorsqu'il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce que ce que Paul fait ici est plus intense que ce que Jésus demande de tous ses disciples? Jésus dit, si tu veux être mon disciple, c'est simple. Tu renonces à toi-même, ta vie n'est plus précieuse. Tu te charges de ta croix. On ne se chargeait pas des croix comme d'un pack-sac pour partir une fin de semaine. La croix, ça servait à quelque chose. Hein? C'était un support pour être crucifié. Tu te charges de ta croix et tu me suis. Alors, quelle est la différence entre ce que Jésus demande à tous ses disciples et ce que Paul fait ici? Moi, j'en vois aucune. La seule différence que je vois, c'est que je vois un homme qui avait été appelé à un destin exceptionnel. On n'est pas tout appelé à ressusciter des morts. On n'est pas tout appelé à mourir martyr. Dieu merci, on n'est pas appelé à ça chacun d'entre nous. Mais nous sommes tous appelés à mourir à nous-mêmes afin de laisser Christ vivre sa vie en nous. Et la raison est fort simple, c'est qu'il a donné sa vie pour toi. Ce que Christ te demande de faire, c'est en rien supérieur à ce qu'il a fait pour toi. C'est rien en comparaison à ce qu'il a fait pour toi. Parce qu'il a donné sa vie qui n'était pas la tienne, qui était une vie parfaite. Tu as juste à lire les évangiles pour réaliser que tu ne méritais pas et que je ne méritais pas qu'un être semblable donne sa vie pour toi. Il n'y a personne ici qui mérite ça, d'accord? Si vous prenez pour un saint, vous êtes le nouveau Jésus, venez me voir après, on va prier pour vous, on peut vous imposer les mains, n'importe quoi. On va vous donner des médicaments si ça en prend. Il n'y a personne ici qui est à la hauteur de Jésus-Christ, d'accord? Personne. Il n'y a personne qui méritait que cet homme-là donne sa vie pour nous. Ne garde pas ta vie pour toi-même, mais ne la donne pas à un autre que Jésus-Christ non plus. Et ça, c'est super important. Il n'y a personne dans aucune religion que tu vas trouver, dans aucun système, dans aucune pensée. Il n'y a aucun homme que tu vas rencontrer, aucune femme à qui tu pourrais donner ton cœur, comme on ne doit pas le faire en amour, afin qu'il le bouffe, qu'il le dévore, qu'il prenne ta vie. Il n'y a personne sur la terre qui mérite que tu lui donnes ton cœur, sinon Jésus-Christ. Et je comprends qu'il y a plein de religions où est-ce qu'il y a des philosophes, il y a eu des pensées super intéressantes qui ont été véhiculées. Il y a des choses super intéressantes à écouter, à méditer. Il y a toutes sortes de choses intéressantes, d'accord? Mais il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui a donné sa vie pour toi comme Christ l'a fait. Et donc, ne donne pas ta vie et ton cœur à un autre que Jésus-Christ. Ne le garde pas pour toi, mais ne le donne pas à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. On lit dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul, parlant de Jésus évidemment, est mort pour tous, tous sont donc morts, morts à eux-mêmes. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes et pas pour n'importe qui, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Renonce à ta propre vie, donne-la à un amoureux qui va la dévorer et il va te détruire. Renonce à ta propre vie, donne-la à une espèce de gourou que tu vas suivre et il va te détruire. Renonce à ta propre vie, donne-la à un pasteur qui va commencer à avoir une influence dominatrice sur ta vie. Il va te détruire. Ne garde pas ton propre cœur et ta propre vie pour toi, mais ne la donne pas à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. Parce que lui seul est mort sur la croix pour toi. C'est lui le bon berger qui n'est pas un mercenaire. Qui n'est pas un mercenaire. Qui donne sa vie pour ses brebis. Et lorsque tu décides de faire ça, c'est sa vie qui est en nous qui donne un sens profond à notre vie. Un sens éternel à notre vie. C'est parce que je renonce à ma propre vie et que je dis, Seigneur Jésus, c'est ta mort et ta résurrection qui comptent, et c'est ce que tu veux venir faire comme vie en moi, que ma vie va prendre un sens. Et ma vie va prendre une portée éternelle. Quand on lit l'histoire de gars comme Paul, tout ça, on peut avoir l'impression, oui, mais regarde, Yannick, c'est pas parce que je donne ma vie à Jésus que je vais me mettre à faire tout ce que Paul a fait. C'est vrai, on a tous des appels différents, on a tous des dons différents, on a tous une envergure différente. Moi, je suis des gars là-dedans, je lis ça, je suis des gars un peu partout sur la terre, puis je dis, Seigneur, j'ai pas le dixième des dons puis des talents que ces gars-là ont. Je suis pas appelé à faire ce qu'ils font là. Mais je sais que parce que Christ vit sa vie en moi, tout ce qu'il vient faire dans ma vie donne un sens profond à ma vie. Alors, je vis ma journée, je commence ma journée en disant, Seigneur Jésus, je veux que tu viennes vivre ta vie en moi aujourd'hui. Et donc, je te demande, lorsque je vais parler à telle personne, à mes enfants, à mon épouse, lorsque je vais prier, lorsque je vais rencontrer les gens, les choix que je vais faire aujourd'hui, Seigneur, je te demande qu'ils aient un impact dans l'éternité, Seigneur. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Lorsque je suis, j'ai Bruno qui est là, puis j'ai Luc qui sont là, puis Bruno, on a pleuré ensemble, on a prié ensemble, puis je vois ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Quel sentiment vous pensez que ça me donne? Comprenez-vous? Je ne suis pas en train de construire un monument en pierre qui va décrépir après 200 ans, puis les gens vont regarder ça et vont dire « Wow, c'était beau dans le bon vieux temps ». Je suis en train de construire quelque chose qui va avoir une portée éternelle. Et lorsque je prends du temps avec mes enfants et puis que Danny entend les enfants comme ça qui se mettent à chanter, puis ils espèrent, puis ils prient, puis ils attendent que Dieu vienne semer une semence qui va avoir une portée éternelle, puis on voit nos enfants venir passer par les eaux du baptême, donner leur vie à Christ. Quel sens ta vie prend quand tu fais ça? J'ai pas besoin de mourir martyr comme Paul. J'ai pas besoin de traverser tout l'Empire romain. Je peux être sédentaire comme Yannick Étier. Mais chacun des gestes que je pose ont une portée éternelle, qui donne un sens profond à ma vie, qui me préserve de devoir dire « Je veux vivre ma vie aujourd'hui parce que demain, j'ai pas d'espoir sur demain. » Fait que je vais la vivre à fond. Même si je devais la péter ma vie aujourd'hui, je vais la vivre à fond, j'ai pas d'espoir pour demain. Moi, ma vie à moi a déjà un goût d'éternité, parce que le Dieu éternel vibre en moi par son esprit. Paul dit dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, comment on fait ça? Je vais terminer avec ça. 5 conseils pratiques simples. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici dans cette portion-là du livre des Actes, parce que ça peut avoir de l'air très théorique, cette affaire-là. OK, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, premièrement, prendre une décision que tu t'accroches plus à ta vie. Ici, là, ce matin, là, il y en a 50, 60, vous vous accrochez à votre vie. Votre vie est à vous. C'est votre propriété, c'est précieux, vous êtes accrochés à ça. Il n'est pas question que Dieu vienne diriger ça. Il n'y en est pas question. La première décision que tu as à prendre, avant même d'espérer que l'Esprit vienne diriger ta vie, c'est premièrement de renoncer à ta vie, de la donner à Christ et de dire, Seigneur, viens vivre ta vie en moi. Parce que ta vie va donner un sens et une valeur à ma vie. Mais une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je suis conduit par l'Esprit Saint? Bien, c'est intéressant dans le passage ici, on voit que c'est pas simple, d'accord? L'Esprit est en train de diriger la vie de Paul. Moi, je trouve ça vraiment fascinant parce qu'on dirait qu'il y a des messages contradictoires. Paul dit d'une part, il dit, « Conduit par l'Esprit, lié par l'Esprit, je me rends à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'attend. » Un tout petit peu plus loin, on lit au verset 21:4. Les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul, « Ne pas monter à Jérusalem. » C'est un petit peu l'esprit l'a lié, il s'en va à Jérusalem. L'esprit leur dit, lui dit par les disciples, de ne pas monter à Jérusalem. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, il dit partout, de ville en ville où je m'en vais, l'esprit m'avertit. Ça veut dire que le Saint-Esprit disait carrément aux disciples, écoute, on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a de quoi qui s'en vient, mon homme, tu ne dois pas faire ça, cette affaire-là. Et lorsqu'il arrive après ça plus loin, mais ça va être le prophète Agabus qui va intervenir de la même manière. Et la manière que les disciples interprètent ça, c'est clair, Paul, tu ne dois pas y aller. Pourquoi est-ce que je prends le temps de souligner ça? Pour une raison simple, d'accord? Choisir que Christ va vivre sa vie en moi, le laisser vivre en moi, puis après ça, placer ma vie au service de l'Esprit-Saint, je vais le dire comme ça, ça ne sera pas toujours clair. Ça ne sera pas toujours clair. Parce que c'est rare qu'il écrit sur les murs puis qu'il dit « OK, vire à gauche ». C'est rare qu'il t'envoie des textos puis qu'il dit « Texto du Saint-Esprit, ce matin tu dois faire ça ». C'est rare qu'on a ça, d'accord? Mais non, moi je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis pas que je peux pas avoir des visions, je dis pas que je peux pas avoir des apparitions. Pff, Dieu peut faire absolument ce qu'il veut. Mais même dans les Écritures où on a des périodes extrêmement intenses de miracles, ça demeure quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire, des gens qui ressuscitaient des morts, je suis désolé, il y en a pas une tonne dans le Nouveau Testament. D'accord? Même si tous les disciples avaient le Saint-Esprit. Alors, ce que je veux souligner par là, c'est simplement, ça sera pas simple. Ça sera pas simple de laisser l'Esprit conduire ta vie. Je vais y aller avec 5 conseils pratiques que je vois dans la vie de Paul, que je vois un peu ici aussi, très brièvement, d'accord? Premièrement, comme Paul, Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Commence premièrement par centrer ta vie sur la croix de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire commencer chaque journée avec l'Évangile. Réaliser que tu n'as rien à faire aujourd'hui pour gagner ton ciel. Christ a fait tout ça. Tout ce que tu peux faire, c'est te mettre au service de Dieu. Simplement, par pure grâce, Dieu veut bien se servir de toi. Et ce que tu étais avant, tu ne l'es plus maintenant parce qu'il vit en toi. Il a placé une vie nouvelle en toi. Alors, centre ta vie sur la croix de Jésus-Christ et tout ce qu'il apporte dans ta vie. Deuxièmement, enligne ta vie sur la mission que Dieu a donnée à tous ses disciples. On a tous des appels différents, des dons différents. On a tous des talents différents. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire ceci ou faire cela, c'est vrai. Mais pour tous les disciples de Jésus-Christ, la même mission a été donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour chacun d'entre nous. Alors que tu sois appelé à être ingénieur, que tu sois appelé à être photographe, que tu sois appelé à être missionnaire, que tu sois appelé à être une maman à la maison ou tu es en train d'élever tes enfants à la maison, quel que soit ton appel, quel que soit tes dons, quel que soit tes talents, tu es engagé dans cette mission-là de faire des disciples, d'accord? Ce n'est pas une pensée biblique de croire que c'est le bonhomme en avant qui va faire des disciples. Les disciples font des disciples, c'est ça qu'ils font, d'accord? Nous reproduisons ce que nous sommes. Chacun selon nos dons, mais enligne ta vie à travers tout ce que tu fais au travail, ton témoignage au travail, ta relation avec tes enfants, ta relation avec ton époux, ton épouse, tes amours, si tu cherches l'amour de ta vie, enligne-le sur la mission. Ton implication dans l'Église, enligne-le sur cette mission-là. À travers le processus, l'Esprit va pouvoir te conduire. Je crois aussi que c'est une vie qui est consacrée à considérer les dons et les ministères auxquels Dieu t'appelle. Je crois pas que c'est quelque chose qui est statique, d'accord? C'était pas statique dans la vie de Paul. Paul a commencé, il a eu tel ministère, son ministère a grandi, il est allé ailleurs, tout ça. C'est pas statique tout ça. Alors, je décide de consacrer ma vie à être attentif à ce que Dieu me donne comme don et ce que Dieu me donne comme talent. Moi, je peux vous le dire tout de suite, je ne suis pas appelé à faire de la musique. Et je ne suis pas appelé à chanter parce que Dieu vous aime. Comprenez? C'est correct là, ça va. Mais je veux dire, j'ai 3 musiciens en apprentissage dans la maison et ils m'ont tous dit que je chantais faux, d'accord? Donc c'est clair. Ils essaient de m'encourager, je sais, tantôt ils vont te dire, « Non, papa, on n'est pas si dur que ça avec toi. T'es capable, papa, vas-y, on est avec toi. » C'est correct, mais ils ne veulent pas que je monte sur le stage pour ça. C'est bon? Mais ça, c'est une question de talent, c'est une question de don, c'est une question de ce que Dieu vous a donné. C'est Dieu qui vous a créé. À travers ça, Dieu va vous parler. Alors, soyez attentifs aux dons et aux talents qu'il vous a donnés. Vous en avez, et de là va découler votre champ de mission à vous. Dans votre réalité quotidienne, il y a un champ de mission qui va être là, et l'Esprit est en train de vous parler à travers ça. Parce que c'est le Créateur qui vous a conçu comme ça. Et enfin, dernièrement, c'est une vie qui est consacrée à écouter ce que Dieu place dans ton cœur et sur le cœur des gens qui t'entourent à ton égard. J'ai appris très tôt dans ma vie chrétienne, très tôt, je l'ai vu dans les Écritures, que Dieu nous parle aussi à travers les aspirations de notre cœur. Constamment. Constamment. Et que Dieu nous parle à travers les frères et sœurs autour de nous. Alors, mon exemple à moi, je donne ma vie à Christ, ou plutôt, il vient prendre ma vie. Dans la première année, je dis, moi, ce que je veux être, c'est pasteur. Avant, je voulais être philosophe, après ça, je voulais être psychologue, après ça, j'ai dit non, j'ai trouvé la vraie patente. Moi, je veux être un pasteur. J'allais voir le pasteur, j'ai dit, moi, je veux prendre votre place. Quand est-ce que je commence? Puis il m'a dit, regarde, va-t'en pleurer, va-t'en prier, mon homme, tu veux faire n'importe quoi dans la vie, mais pas ça, OK? Si tu es convaincu qu'il n'y a pas d'autre option pour toi, on se reparlera. Fait que je suis allé pleurer, je suis allé prier, puis je suis revenu avec conviction, puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire de ma vie, ou sinon, je vais mourir. Puis il m'a dit, OK, on va faire quelque chose ensemble. Ça, c'est l'aspiration de ton cœur. On va commencer à entrer dans ce service-là ensemble. Je vais commencer à m'investir dans ta vie. Puis après ça, on va écouter ce que l'Esprit va dire à travers l'Église. Et ce qu'il disait au début, c'était vraiment confus, je vous le dis. La première fois que j'ai prêché, c'est comme, ça ne regardait pas bien, là. D'accord? Ça n'avait pas l'air de s'en aller dans ce sens-là. Et ceux qui étaient là dans le temps, vous vous en rappelez, c'était pénible, d'accord? Je sais, vous êtes bons pour moi. Mais il dit, ça va prendre quelques années, Yannick. Donne-nous 2-3 ans, on va laisser l'Esprit parler à travers l'Église aussi. Ça, c'est mon expérience à moi, mais c'est la même chose qui vous est offerte à vous. Le Saint-Esprit va vous parler à travers des aspirations de votre cœur, qu'il va confirmer par des choses que les gens autour de vous vont dire, qui ont le même esprit, ils ont l'Esprit de Christ. Et c'est à ça qu'on assiste ici. Parfois, ça va se faire de manière assez incroyable. C'est vraiment des prophéties qu'on voit ici où des gens viennent, puis ils ont sur leur cœur de dire, écoute, il faut que je te dise ça. Mais voyez-vous la confusion? Il y en a qui viennent puis disent, le Saint-Esprit m'a dit de dire qu'il ne fallait pas que tu ailles. Quand je mets tout ça ensemble, ce que je comprends, c'est non, Saint-Esprit est en train de dire à tout le monde, il va souffrir le bonhomme. Puis certains ont interprété ça en disant, il est en train de me dire qu'il ne faut pas que tu ailles. C'est pas ça qu'il est en train de vous dire. Il faut juste que je sois vraiment prêt à souffrir. Et donc, apprenez à être à l'écoute. Apprenez à être à l'écoute de ce que Dieu place sur votre cœur, de ce que les gens autour de vous apportent. Des fois, les gens vont venir et vont vous dire, « Regarde, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je te dis, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je vais mettre ça dans prière. Ce n'est pas nécessairement vrai. C'est peut-être charnel, ça. Ça vient peut-être pas de Dieu. Peut-être que ça vient de Dieu. Peut-être que c'est ça, mais différent de ça aussi. Je vais apprendre à mettre ça dans la prière. » Mais il y a une chose que je peux vous assurer. Si vous gardez votre vie pour vous-même, elle ne prendra pas de valeur. Si vous restez replié sur vous-même, vous vous accrochez à votre vie comme si vous pouviez la rendre plus précieuse en la gardant pour vous-même, ça va être une petite vie. Même si vous deveniez la plus grande vedette internationale, ce serait encore une petite vie. Et on en a vu des dizaines dans les dernières années. Des vedettes incroyables. Lorsque leur vie privée sort au grand jour, c'est petit comme vie. C'est petit. Le dernier a probablement assassiné sa bien-aimée, alors qu'il devenait une icône incroyable. Si vous la gardez pour vous, votre vie va être petite, même si elle avait une grosse cote de popularité. Et quand vos secrets vont sortir au grand jour, votre vie va être dévoilée comme étant petite. Mais si vous faites ce choix-là, de dire, Seigneur Jésus, toi tu as donné ta vie pour moi, viens prends ma vie, Seigneur. Viens vivre ta vie en moi. Votre vie va être grande, quel que soit l'appel que sur votre vie. Et commencez simplement à dire, Seigneur, je veux te laisser vivre ta vie en moi. Je veux laisser ton esprit me parler. Je veux laisser ton esprit me guider. Et apprenez à aller dans la prière, allez faire des retraites de prière. Allez prier, puis attendez que le Seigneur conduise dans vos cœurs et à travers les gens autour de vous. Et ce que Dieu va faire ici dans cette église-là, ce que Dieu va faire, c'est que chacun des petits gestes qu'on va poser va avoir une portée éternelle, au lieu d'être insignifiant, gardé pour soi-même. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, avec l'appel que tu as sur ma vie, avec les dons, les talents que tu m'as donnés, Seigneur, je ne veux rien de moins que ce que Paul a vécu, Seigneur. Parce que je crois profondément dans mon cœur que c'est l'appel que tu as placé devant chacun des disciples. Tu nous as appelés à renoncer à nous-mêmes, à nous charger de notre croix et à te suivre, te laisser vivre ta vie en nous, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous ici ce matin. Pour moi, premièrement, Seigneur. Tu sais combien ce message, Seigneur, est un miroir devant ma face, un jugement sur mon propre cœur, Seigneur. Et combien j'ai besoin d'apprendre à dépendre constamment de toi, Seigneur. Mais je te prie pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous dans cette pièce. Ceux d'entre nous qui retiennent leur vie et qui ne veulent pas que tu la conduises, Seigneur. Fais leur grâce. Accorde-leur la grâce, Seigneur, de leur montrer combien ils sont condamnés à une petite vie sans toi. Accorde-leur cette grâce de voir cela dans les prochains jours, Seigneur. Qu'ils soient les gens les plus beaux, les plus fins, les plus compétents. Montre-leur, je t'en prie, Seigneur. Et accorde-leur cette grâce de tomber à genoux et de céder devant toi, Seigneur, en t'invitant à venir vivre ta vie en eux. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont chrétiens déjà et qui pourtant, à l'écoute de ce message, disent « C'est moi qui dirige ma vie. C'est moi qui vis ma vie. Ce n'est pas Christ qui vit sa vie en moi, même si je le connais. C'est moi qui vis ma vie en moi. » Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur, parce que nous connaissons ta parole, nous connaissons tes bontés. Aie pitié de nous lorsque nous résistons, Seigneur. Et accorde-nous ces grâces, ces moments où nos cœurs deviennent contrits, Seigneur, et on crie à toi. On te supplie, Seigneur, de venir vivre ta vie en nous, Seigneur. Seigneur, enfin, je veux te demander, en terminant, de nous apprendre à laisser ton esprit nous conduire. Apprends-nous, Seigneur, à conduire notre vie à la lumière de ta parole avec sagesse, mais dans l'écoute, dans l'attente constante de ta direction dans nos vies, Seigneur. Quotidiennement, tous les jours, en ayant cette ouverture de cœur que tu vas nous conduire, Seigneur. Afin qu'on puisse dire avec l'apôtre Paul, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Mais pour moi, ce qui m'importe, c'est de terminer ma course avec joie et d'accomplir le ministère auquel j'ai été appelé, annoncer l'Évangile aux païens. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.